France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, la chanson s'expose. Pour démarrer cette nouvelle saison, chers amis auditeurs, je vous propose une émission un peu particulière puisqu'elle va nous amener à revisiter nos souvenirs de chansons du XXe siècle à travers deux expositions originales. Tout d'abord, puisque nous sommes encore à la fin de l'été et que c'est peut-être pour vous le dernier week-end de vacances, je voudrais vous parler de l'exposition « Vos tubes de l'été » présentée depuis la fin juin au Musée des musiques populaires de Montluçon. Elle questionne ce phénomène plus riche et complexe qu'il n'y paraît en s'intéressant aussi bien à ses aspects sociaux, commerciaux qu'artistiques. Le terme « tube » a été lancé en 1957 par Boris Vian, qui a même signé le texte d'une chanson sur le sujet, composée et enregistrée début 58 par Henri Salvador.
V'là les accessoires pour faire un succès. Une rue, un trottoir, une môme bien roulée. Un gars, chandail noir et cheveux collés. Rengaine qui traîne, ni triste ni gaie. Voilà les accessoires, messieurs dames, entrez. La fille et le gars se sont rencontrés. Entre deux, il y a soudain quelque chose qui survient. Dans la nuit, les voilà partis. V'là les accessoires d'une histoire d'amour. Un bar, un comptoir, du pinard bien lourd. Le gars a regardé la fille dans les yeux. Cocotte, tu me bottes, on va vivre à deux. Elle a dit, mon chéri, je ferai ce que tu veux. La nuit les a pris, c'était merveilleux. Mais demain c'est fini, y a plus rien que la vie. Faut de l'argent pour payer l'amant. Une rue, un trottoir, une môme fatiguée. Monsieur qui passait, voulez-vous monter?
Le concept marketing de tube de l'été, popularisé par les médias depuis une soixantaine d'années, désigne les chansons les plus diffusées et les plus vendues durant la saison estivale. Comme l'explique Éric Bourgougnon, conservateur du Musée des musiques populaires de Montluçon et co-commissaire de l'exposition, le phénomène du tube de l'été est né à la fin des années 50, après la mise en place d'un contexte propice. Le développement des radios dites périphériques, en particulier Europe numéro 1, et la création des hit-parades français sur le modèle anglo-américain, présent dans la presse, la radio, et plus tard la télévision avec le top 50 initié par les maisons de disques. Le tube de l'été est principalement destiné au public adolescent, nouvelle cible commerciale à partir des années 60, dont la jeune France Gall, âgée de 16 ans en 64, est une bonne représentante.
Mes premières vraies vacances, j'en rêvais depuis longtemps. Et cette année, j'ai la chance de partir sans mes parents. Ce n'est pas que ma famille soit vraiment collée montée. Mais moi, je suis grande fille, j'ai besoin de liberté. Fini de toujours dire où l'on est, fini la trempette où l'on a pied, fini de s'habiller pour dîner, bien fini. J'aurai le droit de marcher nu pied, j'aurai le droit d'être décoiffée, j'aurai le droit d'aller me baigner sans bonnet. Mes premières vraies vacances, moi je veux en profiter pour sortir de mon enfance par les portes de l'été. Mes premières vraies vacances, comme elles me semblaient loin. Et voilà qu'elles commencent, je serai là-bas demain.
Ce Ces chansons aux paroles légères et souvent remplies de clichés qui rythment les vacances sont également témoins de leur époque. Comme le montre l'exposition « Vos tubes de l'été », elles portent parfois la marque de l'histoire, avec par exemple des références à la guerre d'Algérie, à mai 68, à la guerre froide, au choc pétrolier de 73, à la libération de la femme et encore bien d'autres aspects. L'exposition couvre ainsi 40 années, de « Fais-moi le couscous chéri » de Bob Azam en 1960, qui évoque de façon métaphorique les événements en Algérie, à « Tomber la chemise » du groupe Zebda en 1999, qui décrit la vie quotidienne dans les cités toulousaines. Fonction première du tube de l'été, on s'en doute, est de rapprocher les individus et de les faire danser. Le tango, le rock, le twist, le jerk, le disco, la biguine, le zouk, la salsa et bien sûr l'indispensable slow. Cela va même jusqu'à l'invention de nouvelles danses comme la lambada en 1989 ou la macarena en 1993, fabriquées de toutes pièces pour faire des tubes. Mais la recette est loin de toujours fonctionner et l'on a vu des musiques pas du tout prévues pour cela devenir des tubes de l'été. Exemple, L'Aigle Noir signé par Barbara en 1970, ou bien une chanson à laquelle Michel Delpech ne croyait pas, figurant en face B d'un 45 tours sorti en mars 1971, qui entre au hit parade au mois de mai et finit par tourner en boucle sur les radios au point d'être numéro 1 durant presque tout le mois de juillet et se vendre à 1 200 000 exemplaires en 4 mois. L'arrangement de cette chanson signée Roland Vincent a bien sûr contribué à son succès, en particulier le fameux gimmick de trompette. Les tubes de l'été suivent les modes et les goûts musicaux du moment, mais aussi les influences étrangères, successivement anglaises, américaines, sud-américaines et antillaises. À chaque époque, les moyens musicaux mis en œuvre pour la mélodie, le rythme, la structure harmonique et l'orchestration sont souvent simples, mais très efficaces pour donner envie de danser. L'exposition dessine une galerie des rois du tube de l'été. Une vingtaine de noms, en tête desquels figurent Johnny Hallyday, Claude François, Sylvie Vartan, Sheila et Françoise Hardy. Mais certains chanteurs n'ont fait qu'un seul tube qui constitue le socle de leur carrière. C'est le cas de Patrick Hernandez avec son fameux disco Born to be Alive en 1975, 1995 ou de Gérard Berliner avec Louise en 82. D'autres ont au contraire vu leur succès décoller après un premier disque. L'été 65 voit ainsi émerger Hervé Villard avec Caprice est fini et Christophe avec Aline. D'autres chanteurs ont des carrières en dents de scie ponctuées de tubes. C'est le cas de Philippe Laville, originaire des Antilles, qui a connu son plus grand succès avec ce disque vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires durant l'été 82.
Sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. $1 pour prendre en photo son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi, Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.
Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.
Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien. Y a des filles de partout qui lui veulent du bien. La gloire, ils s'en foutent et ça va, ça vient.
Les années 60 et 70 ont été favorables au développement des tubes de l'été en raison d'un nombre très limité de canaux de diffusion. 4 chaînes de radio publiques et privées, 3 chaînes de télévision publiques. Cela permettait d'optimiser le matraquage des morceaux. L'explosion de la FM au début des années 80, puis la création de nouvelles chaînes de télévision, a marqué une première étape de dilution de l'audience, laquelle s'est encore accentuée avec l'apparition de l'Internet dans les années 2000, à tel point qu'on ne peut plus vraiment parler de nos jours de tubes de l'été, mais simplement de titres qui fédèrent différentes communautés. Ces nouvelles musiques à danser, dont les paroles sont désormais souvent en anglais, s'oublient aussi vite que le changement de saison. Témoin, ce refrain qu'on a pas mal entendu ces derniers mois du chanteur guadeloupéen Francky Vincent, spécialiste du zouk grivois, avec la chanteuse d'origine mauricienne Maria Apagou.
Je marche dans la rue, je te souris, tu me regardes, tu me dis.
Pourquoi tu me mates comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas.
Si doudou, laisse-moi te dire tout ce que j'ai à t'offrir.
Tous les faits que tu me fais, c'est.
La scénographie de l'exposition « Vos tubes de l'été » qui se tient jusqu'au 5 janvier prochain au Musée des musiques populaires de Montluçon évoque les vacances depuis les années 50 et tout ce qui va avec. La voiture 4L, l'autoradio, la tente de camping, le bar de la plage, la discothèque et même le podium du Tour de France. Elle décrit également l'évolution des supports de diffusion, du disque 45 tours, la cassette audio jusqu'au CD, le poste de radio, de télévision, le tourne-disque, le magnétophone ou encore le radiocassette portatif. Bref, de quoi prendre une bonne bouffée de nostalgie.
Tour de chant, Martin Pennet, France Musique.
À présent, je vous propose un autre genre de parcours musical avec une plongée au cœur de notre mémoire collective et des chansons qui ont marqué plusieurs générations. Je vous emmène en effet visiter une seconde exposition au musée départemental de Seine-et-Marne, situé à Saint-Cyr-sur-Morin, le village de l'écrivain Pierre Macorlan, qui accueille un public mêlant tous les âges. Son titre, « Si on chantait », est un clin d'œil au succès de Julien Clerc de 1972.
La grande ville mange la ville, la grande ville mange la vie. Marie si belle, Marie Vaisselle, Marie Chandelle, plume d'hirondelle, fleurs sans colline, fleurs en cuisine, Marie sans phare, lors de brouillard.
Evelyne Baron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, responsable du musée de Seine-et-Marne, où nous nous trouvons au cœur de cette exposition « Si on chantait, la 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 ».
Oui, tout à fait. En fait, c'est une exposition qui a été créée par le musée dauphinois de Grenoble et par son conservateur Franck Philippot. Et nous avons décidé de l'adapter ici à notre territoire francilien, dans ce musée départemental de société de territoire. Donc l'idée, en fait, qui prédomine dans cette exposition, c'est que le visiteur parcourt les pièces d'un appartement ou d'une maison, et dans chaque pièce va trouver des chansons à entendre qui traversent à peu près un siècle de chansons, du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois, il va y avoir un thème autour de la chanson qui va être relié à la fonction de la pièce. Par exemple, quand on est dans le vestibule, on va traiter de la chanson de l'ailleurs, c'est-à-dire l'identité, le fait d'être émigré, le fait de voyager, etc. Quand on est dans la chambre de l'adolescent, par exemple, on va traiter de la chanson de révolte, etc. Donc c'est une expo plus sensible qu'historique, en fait une expo d'immersion pour le visiteur dans laquelle il va jouer à écouter les chansons dans un contexte qui est du quotidien. Et l'idée prédominante, c'est que la chanson est quelque chose qui nous accompagne, qui accompagne notre vie entière et notre quotidien. L'idée, c'était que les visiteurs puissent s'approprier extrêmement facilement le répertoire et visiter l'exposition en famille, en chantant. On a même une douche avec un karaoké, et en général, on peut chanter ensemble des chansons qui ont vraiment, vraiment marqué leur époque.
La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi, à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis, tu es parti, j'ai cherché le repos. J'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent. Mes mots d'amour, tu te prendras au jeu des passions qu'on jure. Mais tu verras d'aventure le grand amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire.
Cette exposition existe déjà depuis plusieurs mois et se prolonge jusqu'à la fin de l'année. Quel est le retour des visiteurs? Qu'est-ce que ça révèle de leur rapport à la chanson? Qu'est-ce qu'il en ressort?
La chanson, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement intime, mais c'est aussi quelque chose qui fait le lien social. Et les gens adorent la visiter à plusieurs, soit en groupe, soit en famille. C'est une expo extrêmement intergénérationnelle, ce qui n'est pas forcément facile à faire. C'est une exposition qui fonctionne avec les jeunes et notamment les adolescents. La problématique des adolescents et des musées est bien connue. C'est l'époque où ils ne sont plus obligés d'y aller avec les parents ou avec l'école et où ils viennent plus. Enfin bon, et là c'est une expo où finalement ils ont envie de venir. Ils sont surpris que dans un musée, par exemple, on puisse diffuser une chanson de Stromae, quoi. Ça change aussi le rapport du visiteur au musée, finalement. On a gagné un public qui ne serait jamais venu sans cette exposition.
Nous les hommes et tous les mêmes, macho mais tu, monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous.
La devise de l'exposition Si on chantait pourrait être « Dis-moi qui tu écoutes et je te dirai qui tu es ». Les visiteurs réalisent combien la chanson est présente tout au long de leur vie, véhicule des ambiances, des passions, des souvenirs. Elle offre des mots aux humeurs et aux sentiments. C'est l'art le plus partagé, quel que soit l'âge et l'origine sociale de ses auditeurs. Au sein des différentes pièces de l'appartement de cette exposition, chaque membre de la famille se retrouve dans son univers propre. À côté des thèmes prévisibles, l'altérité dans le vestibule, le quotidien dans la cuisine et le séjour, l'intimité dans la salle de bain, le travail dans l'atelier, les chansons d'amour dans la chambre des parents et les chants de révolte dans la chambre de l'adolescent, j'ai choisi de développer le thème du terroir évoqué dans le garage. De nombreuses chansons dépeignent en effet les villes, les quartiers, la nature, la montagne ou bien les bords de mer. Si la version dauphinoise de l'exposition insistait assez logiquement sur l'Isère, des Allobroges au rap Grenoble, la version francilienne propose un panorama différent dont le centre pourrait être Montmartre. Parmi les chansons retenues, une œuvre du célèbre chansonnier Aristide Bruand, écrite en argot d'il y a 130 ans et intitulée « À Montmartre ».
Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils à Poirier, la rue Berthe, depuis les temps les plus anciens, nous habitons moi et les miens à Montmartre. En 1870, mon papa cadrait le 3-6 et la verte est mort à 47 ans, qui fait qu'il repose depuis longtemps à Montmartre. Deux ou trois ans après, je fis, qui peut s'appeler pour un bon fils, une rue de perte, un soir, sur le boulevard Rochechouart, ma pauvre maman se laisse échoir à Montmartre. Je ne suis pas très heureux depuis, j'ai bien souvent passé mes nuits sans couverte. Et bien souvent, quand j'avais faim, j'ai pas toujours mangé du pain à Montmartre.
Outre plusieurs chansons sur la capitale, Ça c'est Paris par Miss Tinguette, La Seine par M et Vanessa Paradis, la question de l'enracinement est évoquée au sein de cette section de façon très diverse. Margot reste au village, chanson de 1909 qui insiste sur les dangers de la capitale pour celles qui choisissent l'exode rural. Le plat pays, où en 1962 Jacques Brel affirme avec un grand lyrisme sa belgitude. Chez nous, créé en 2018 par Patrick Fiori et Soprano pour célébrer les quartiers populaires du Marseille de leur enfance où règne une grande mixité sociale. Et plus localement, La rue des Marais, une chanson de Dominique A, créée en 2006, qui évoque sa prime adolescence passée à Provins, sous-préfecture de la Seine-et-Marne.
Il neige ce matin dans la rue des Marais. David court et je lui cours après. la sonnette a parlé. Tournez vos sabliers et la blouse vert d'eau pénètre sous la peau. 16h30, les cris, les sabliers vidés. Bientôt j'écrirai tout quand je saurai viser. En attendant, j'embrasse la joue qui s'est baissée dans la rue verglacée. Et à demain, l'angoisse. Il neige ce matin. 5 ans à tout casser dans la rue des marais. David est essoufflé, je l'ai bientôt rejoint et je ne sais plus.
Evelyne Baron, quelques mots à présent sur le fonds Macorlan et notamment cette salle consacrée aux chansons de Macorlan qui, on le sait, a livré quand même un grand nombre de textes de chansons d'une qualité remarquable, très poétique, très nostalgique souvent d'ailleurs. Ça retrace un petit peu toute sa vie. J'aimerais que vous me disiez donc quelques mots sur l'importance de Macorlan pour ce musée de Seine-et-Marne et pour Saint-Cyr-sur-Morin en particulier où se trouve sa maison.
En fait, le musée de la Seine-et-Marne, en effet, est situé à Saint-Cyr-sur-Morin, tout petit village, parce que Macorlan y a vécu, y avait sa maison, qui est toujours visitable. C'est la raison pour laquelle aussi on a choisi de faire cette exposition, parce que Macorlan était lui-même très très grand connaisseur de la chanson française en particulier, mais pas que. Finalement, en traversant, en visitant toute l'Europe, il a glané à chaque fois le répertoire populaire de chacun de ces pays. Et donc, c'est un vrai lien entre ces deux expositions. Le musée conserve la plus importante collection publique sur cet écrivain, avec environ 10 000 numéros. Donc, on voulait rappeler cela par une exposition annexe à l'exposition S'y enchantait et évoquer effectivement le lien que cet écrivain avait avec la chanson qui a été pour lui une manière d'écrire ses mémoires. Il a consigné ses chansons principalement dans deux recueils qui s'appellent Chansons pour accordéon et Mémoires en chanson. Et c'était une manière effectivement de raconter sa vie, puisque c'est des chansons qu'il a plutôt publiées et fait composer dans les années 50-60, et il est mort en 1970. Il a écrit environ 70 chansons, mais qui sont toutes des petits chefs-d'œuvre, certaines plus connues que d'autres. Et il a eu des interprètes importantes comme Juliette Gréco, Germaine Montero, Monique Morelli, Catherine Sauvage et plus récemment Francesca Soleville.
L'accordéon gint dans les cours, l'enfant divin vous tire la barbe. Le vent du nord s'accroche aux arbres, ainsi s'annonce le printemps. Venez vers nous, ô beaux enfants, enfants perdus, tendres gisquettes. Mettez des fleurs à vos casquettes. Selon l'usage des truands, les margotins des jours de fête fleurissent la lourde des bougnats. Voici le surplus des marcas, de la chapelle à la Villette. Voici les greluches de Paris, les vieilles dettes montmartroises et leurs souvenirs rajeunis. C'est toute la rue qui pavoise.
Monique Morelli chantait La rue qui pavoise, un texte de Pierre Macorlan mis en musique par Lino Leonardi, qui l'accompagnait également à l'accordéon.
Présent dans la plupart des pièces du dispositif scénique, Macorlan a donc une place de choix au sein de l'exposition « Si on chantait » qui se tient jusqu'au 23 décembre au musée départemental de Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin. Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Fabien Capel à la technique et Pierre Villers à la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.